C'est moi qui vous remercie, Alain, et je vous dis toute ma gratitude pour le plaisir de me retrouver en si bonne compagnie pour penser la mondialisation à partir de l'œuvre de cette philosophe admirable qui était Simone Weil. Alors, je déplace un peu le propos depuis ce matin. On a surtout parlé du livre de Simone Weil sur l'enracinement. Je vais, quant à moi, parler de ses articles, des articles qu'elle a consacrés à partir du début des années 30 à la question coloniale. Alors, considérer que les textes que Simone Weil a consacrés au colonialisme invite à penser depuis la colonie, c'est le titre de ma présentation, qu'est-ce que cela veut dire ? Bien entendu, dire qu'elle invite à penser depuis la colonie ne signifie pas qu'elle ait fait le déplacement. Elle n'a pas fait le déplacement pour témoigner de ce que signifie vivre comme sujet colonial, par exemple. Et d'ailleurs, lorsqu'elle écrit pour dénoncer les sanglantes répressions menées par le pouvoir colonial français au Maghreb, elle prend soin de préciser, je la cite, « Pour moi, je suis française, je n'ai jamais été en Afrique du Nord. » Mais dire qu'avec elle, on pense depuis la colonie, c'est faire le constat que si sa démarche est une critique radicale, absolue, éthique, en un mot, du colonialisme, et elle dit, juste à la suite de la citation que je viens de faire, « Je crois pourtant en savoir assez pour porter une accusation », eh bien, si cette critique est celle-là, c'est bien parce qu'elle effectue, et elle invite à effectuer, un décentrement pour voir la réalité coloniale non plus depuis le point de vue de la française qu'elle est, non plus à partir du récit national que la France tient sur elle-même et sur son empire, mais depuis ce qui trouble, ce qui questionne et ce qui finalement dément ce récit national. Il s'agira donc pour moi ici, dans un premier temps, de rappeler que ce décentrement hors du récit national est en soi une démarche critique qu'elle adopte en général, indépendamment de la question coloniale à laquelle elle l'applique dans les écrits qu'elle lui consacre. J'examinerai ensuite, dans un deuxième temps, le fonctionnement, la manière dont ce décentrement fonctionne pour devenir une véritable machine de guerre contre le colonialisme, en précisant cependant que si la condamnation par Simone Weil, au nom de l'éthique, de ce que celui-ci, le colonialisme, peut signifier comme crime contre l'humain, pour parler, pour citer Emmanuel Macron, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, si cette condamnation est radicale et absolue, il n'en demeure pas moins que Simone Weil ne prend guère une position politique qui serait également radicale, condamnant le principe même de la colonisation. Elle ne condamne pas le principe même de la colonisation, même si elle a un langage éthique assez fort, nous le verrons, contre le colonialisme. Enfin, dans un troisième temps plus bref, en quelques remarques, je conclurai sur les leçons que comporte pour nous aujourd'hui, pour ce que l'on appelle la post-colonie, les écrits de Simone Weil sur la question coloniale. Donc, dans un premier temps, sortir du récit national comme elle nous y invite. Lire sa propre légende, et j'entends ici légende au sens premier étymologique latin, legenda, ce qui est à lire, ce que l'on enseigne comme credo, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut répéter, ce qu'il faut enseigner à l'école primaire. Lire donc sa propre légende depuis le point de vue de l'autre, telle est l'injonction sur laquelle est construit l'argument d'un article important de Simone Weil, intitulé « Quelques réflexions sur les origines de l'hitlérisme ». Le passage suivant représente, me semble-t-il, parfaitement l'argument dans ce texte. Il est le suivant, je cite Simone Weil, « On prétend que Napoléon a propagé les armes à la main, les idées de liberté et d'égalité de la Révolution française. » Napoléon n'a pas inspiré au monde moins de terreur et d'horreur qu'Hitler. Fin de citation. Déclaration très forte et probablement surprenante pour ceux qui ne l'auraient jamais lu. Je voudrais faire deux remarques sur cette comparaison qu'elle fait entre Napoléon et Hitler. La première remarque est pour insister sur le fait qu'en effet, le récit qui présente Napoléon comme celui qui, en même temps qu'il met fin à la Révolution française, en exporte les idées qui vont changer le visage de l'Europe et du monde, est l'exemple même du roman national, cautionné, comme on le sait, par Hegel, qui voyait en l'empereur la figure par excellence du grand homme qui aurait été élu, choisi par l'esprit absolu pour changer le cours des choses dans notre monde. C'est donc ce roman national qui est ainsi entretenu par les historiens et qui est également chanté par les poètes. Napoléon est en effet, dans la légende, au sens que j'ai défini tout à l'heure, celui qui répand, et ici je cite le chanteur Jean Ferrat chantant « Ma France », celui qui répand ces terres de liberté au-delà des frontières aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. Voici à quoi invite Simone Veil. Regardez cela, regardez ce roman national, regardez ce récit national depuis le monde, depuis les peuples étrangers, justement, ceux dont parle Jean Ferrat. Que disent-ils, ces peuples étrangers, de la France éternelle, ou plutôt, comment se présente-t-elle en son épisode napoléonien dans le miroir que lui tendent les pays qui ont été violentés et soumis par les grognards de Bonaparte? Eh bien, dit Simone Veil, au miroir du monde, il n'y a pas de France éternelle, tout au moins, écrit-elle, en ce qui concerne la paix et la liberté. Ce contre-récit, c'est celui que produisent, dit-elle, la Hollande, la Suisse, l'Espagne. Et je cite Simone Veil, « Quiconque parcourt le Tyrol, il trouve à chaque pas des inscriptions rappelant les cruautés commises alors par les soldats français contre un peuple pauvre, laborieux et heureux pour autant qu'il est libre. Oublie-t-on ce que la France a fait subir à la Hollande, à la Suisse, à l'Espagne ?» Fin de citation. Donc, récit national d'une part, contre-récit depuis le monde. C'est cette dialectique que Simone Veil fait fonctionner à propos du colonialisme aussi et à propos de tous les colonialismes. Parce que dans ce même article que je viens de citer, elle remonte en réalité dans la comparaison avec l'hitlérisme jusqu'à la Rome impériale. Et ici, je voudrais noter que Léopold Sédar Senghor, en poète amoureux de la langue française, a écrit un magnifique poème où il prie Dieu d'installer la France à la droite du Père. Il avait bien entendu à l'esprit cette France éternelle qu'il avait lui-même appelée structurelle pour l'opposer à ce qu'il appelait la France conjoncturelle qu'il voyait, elle, attachée à se trahir dans les exactions coloniales. Ma seconde remarque est pour dire avec Simone Veil que s'il y a quelque chose d'éternel parce que cela serait également naturel, ce n'est pas le visage de la civilisation, mais au contraire, celui de la barbarie. On retrouve ainsi chez la philosophe l'idée bergsonienne que le naturel, l'instinct, est toujours guerrier. Ce naturel, cet instinctuel, est toujours clôture sur soi. C'est un tribalisme qui n'ouvre pas sur une politique de l'humanité une comme telle, c'est-à-dire de l'humanité comme totalité et comme idée régulatrice. Bergson explique que nous n'avons jamais de manière naturelle et instinctive ce qu'il appelle une âme ouverte, seule à même d'embrasser l'idée d'une humanité une et d'une humanité comme totalité. Simone Veil déclare, en effet, dans l'article sur les origines de l'hitlérisme, que, je la cite, « tout État centralisé et souverain est conquérant et dictatorial en puissance et devient tel en effet pour autant qu'il croit en avoir la force. » Et dans un autre texte, dans ses réflexions sur la barbarie, elle trouve vérifier le postulat qu'on est toujours barbare envers les faibles, même s'il faut peut-être apporter cette nuance que, et je la cite, « sauf au prix d'un effort de générosité aussi rare que le génie ». Alors, et c'est ma troisième remarque, s'il en est ainsi, si le dogme de la souveraineté nationale porte naturellement en soi la barbarie qui ne demande qu'à se manifester dès lors qu'elle peut mettre la force à son service, la solution est d'élargir la civilité qui constitue la nation à la relation que la nation entretient à d'autres. En général, on est bien d'accord que le lieu national, cet espace vital, cet élément vital dont on parlait ce matin, qu'est la nation, doit être aussi le lieu de la civilité, le lieu des citoyens, et on admet que les relations entre les nations, elles, relèvent un peu de la loi de la nature à la Hobbes. Il s'agit donc pour elle de faire en sorte que cette civilité puisse se déborder, devenir transnationale et constituer véritablement le lien entre les nations. Cette relation, elle l'appelle le fédéralisme. Et l'on voit à la fin de l'article sur les origines de l'hitlérisme, Simone Veil proposait le fédéralisme comme ce qui doit remplacer le colonialisme. Je la cite. L'ordre international, écrit-elle, suppose qu'un certain fédéralisme soit établi non seulement entre les nations, mais à l'intérieur de chaque grande nation. Donc il faut ici, en quelque sorte, jouer la Gironde contre le jacobinisme pour respecter le pluralisme. À plus forte raison, je continue la citation, à plus forte raison, le lien entre les colonies et leurs métropoles devrait-il devenir un lien fédéral au lieu d'être un rapport de simple subordination. On peut donc voir que cette conclusion est au fond tout l'article sur les origines de l'hitlérisme est nourri de la réflexion que depuis 1931, selon son propre compte, Simone Veil ne cesse de mener sur la colonie. Et ce sont ces réflexions de Simone Veil sur la colonie et le colonialisme qui vont faire maintenant l'objet de mon second point. Regardez donc et pensez depuis la colonie. À propos du moment et de la manière dont elle s'est trouvée véritablement hantée par la question coloniale, Simone Veil s'explique dans un article intitulé « Qui est coupable de menées anti-françaises ?» Les menées anti-françaises, c'était la phrase bateau que l'on prononçait dans le monde colonial français quand il s'agissait de mener une répression. Tout le monde était accusé à un moment ou à un autre d'être anti-français ou d'avoir des menées anti-françaises. Qui est coupable, demande Simone Veil, de menées anti-françaises. Je n'oublierai jamais, déclare-t-elle, le moment où, pour la première fois, j'ai senti et compris la tragédie de la colonisation. C'était pendant l'exposition coloniale, peu après la révolte de Yen Bai en Indochine. Fin de citation. On voit ici, dans cette citation, et dans la situation de la découverte de la tragédie coloniale, s'effectuer ce que j'ai appelé un mouvement de décentrement hors du récit national. 1931, cette année-là, est sans doute le grand moment colonial, celui où l'État se propose d'offrir aux Français le spectacle de leur colonie, de les inviter à se voir dans le spectacle de leur colonie, car comme le rappelle Simone Veil, la colonisation est un processus qui s'est accompli en dehors de la vie du peuple français. C'est vrai que ça n'a jamais été le cas historiquement que la France a décidé de devenir une puissance coloniale. À un moment donné, évidemment, il y avait le parti colonial, les expéditions coloniales ont été lancées, mais c'était plutôt des affaires de militaires qui parfois prenaient leurs propres initiatives, etc. L'idée que quelque chose de la France dans sa totalité s'était engagé dans l'aventure coloniale n'a jamais existé. D'où l'un des buts de cette exposition coloniale en 1931, présenter aux Français en général, aux Français moyens, leur empire pour la plus grande gloire de la nation. Il s'agit, Donc, en exposant la colonie, y compris les sujets colonisés dans des eaux humains, en exposant cette colonie au cœur de la métropole, d'inviter les citoyens à voir leur pays dans son apparaître impérial en étalant sa puissance et son prestige. Mais le paradoxe était inévitable, et c'est à ce paradoxe que Simone Veil a été sensible en 1931. Ce paradoxe était inévitable dès lors que les deux visages de la France, la structurelle et la conjoncturelle, pour parler comme Senghor, qui devaient exister dans leur séparation, qui au fond ne pouvaient exister que dans leur séparation radicale entre un monde de la civilité et un monde de la barbarie, dès lors que les deux visages de la France se trouvaient réunis dans la métropole, se trouvaient ainsi juxtaposés, le paradoxe devenait inévitable. Parce que le visage de la civilité, de la générosité, de la liberté et de la paix, comme dans un miroir déformant, se reflétait à ce moment-là en celui de la barbarie et du crime. En invitant le monde colonial dans la métropole, la France présentait, sans le vouloir, aussi le visage d'une barbarie qui n'était pas la barbarie décolonisée, mais la sienne propre comme puissance colonisatrice. Le monde de la citoyenneté se découvrait être l'envers de celui de la sujétion. La coïncidence, cette coïncidence n'a pas échappé à Simone Veil. Ce moment où la colonisation triomphe et s'étale dans son triomphe, c'est aussi celui où elle montre qu'elle doit disparaître, qu'elle est révoltante et suscite les révoltes qui la détruiront. Ce que ne pouvait pas savoir Simone Veil, bien entendu, mais qui se pressent dans ce qu'elle découvre, c'est que la répression en Indochine qu'elle dénonce portait la défaite de Dien Bien Phu. On ignore, écrit la philosophe, depuis la position décentrée qu'offre l'Empire, que la France n'est pas, aux yeux de la plupart de ses sujets, la nation démocratique, juste et généreuse qu'elle est aux yeux de tant de Français moyens et autres. Fin de citation. Elle ajoute, puisqu'elle écrit en 1938, à une époque où les visées impériales du Japon commencent à se traduire dans un processus qui aboutira en 1941 à l'invasion de l'Indochine, que les annamites n'avaient de toute façon aucune raison de préférer la domination de la France à celle du pays du soleil levant. J'ai utilisé tout à l'heure le mot « hanté » pour parler de la présence dans l'esprit de Simone Veil de la question coloniale. C'est qu'elle ne pouvait plus ne pas avoir ce regard global, ce regard de surplomb qui tient ensemble le monde des citoyens et le monde des sujets, l'univers de la civilité et le monde de la barbarie. Qui sait, demande-t-elle, je cite, « Ainsi, on va peut-être se souvenir que la France est un petit coin d'un grand empire » et que dans cet empire, des milliers et des milliers de travailleurs souffrent. Fin de citation. Mais elle fait également l'amer constat que tout le monde n'a pas ce regard global qui provincialise la France, pour citer un texte postcolonial célèbre. Il n'a pas ce regard global, donc, qui provincialise la France pour mieux penser son colonialisme. Il n'y a guère de prise de conscience qu'il y a une question coloniale. En particulier les travailleurs citoyens de France ignorent ainsi, au double sens du mot « ignorer », les milliers et milliers de travailleurs sujets qui souffrent. Et les partis qui parlent en leur nom, au nom de ces travailleurs citoyens, celles dont Simone Veil dit « nous aussi, Français de gauche ». Nous continuons, continue-t-elle, nous continuons à faire peser sur les indigènes des colonies la même contrainte impitoyable. Ceci est dans un article intitulé « Le sang coule en Tunisie » qu'elle écrit dans la fin des années 30. Il est ici fait allusion, lorsqu'elle écrit ces mots, au Front populaire et à ceux qui manifestent pendant cette époque contre les fascismes et à l'incapacité qui est la leur d'effectuer le déplacement hors du récit national, le mouvement de se voir depuis la colonie pour se découvrir participant vis-à-vis du monde colonial, de ce qu'ils dénoncent eux-mêmes avec virulence, dans le combat antifasciste au nom du droit, de la liberté et de la paix. Adriano Marchetti rappelle ainsi que le Parti communiste français, devant les crimes, n'a qu'une réaction insignifiante. Je cite. C'est le mouvement surréaliste qui, manifestant contre l'exposition coloniale en 1931, incarnera l'opposition au colonialisme, alors que, comme l'écrit Marchetti, il faut interroger la responsabilité de la gauche, des syndicats, des partis qui théorisent l'internationalisme prolétaire et ne le pratiquent pas. Marchetti écrit cela dans les réflexions, dans un article intitulé « Réflexions de Simone Weil sur le colonialisme ». Mais cette idée que la gauche n'a jamais été bonne, au fond, avec la question coloniale, qu'elle a toujours été pour le moins ambiguë sur la question coloniale, Simone Weil l'exprime aussi avec force à cette époque-là. Se voir depuis le regard de l'autre, c'est un topos de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, qui en fera aussi dans Orphée noir, la préface qu'il écrit à l'anthologie de la poésie nègre et malgache d'expression française de Senghor en 1948, et d'autres textes, une véritable machine de guerre anticoloniale. En 1938, c'est ce même décentrement, cette idée de se regarder par les yeux de l'autre, qu'effectue Simone Weil, qui en tire cette conséquence radicale, extrême, violente, je la cite, « Depuis ce jour, elle parle donc du jour où elle a découvert la tragédie coloniale, « Depuis ce jour, j'ai honte de mon pays. » Fin de citation. Ce sentiment violent, vous le voyez, provient de ce qu'elle sait en effet, que de ce pays existe une autre image que celle fabriquée par le récit national, qui existe, cette image, dans le regard des sujets et qui est à l'opposé de celui que l'exposition coloniale veut présenter aux citoyens. Dès lors, continue-t-elle, je la cite à nouveau, « Depuis ce jour, je ne peux pas rencontrer un Indochinois, un Algérien, un Marocain, sans avoir envie de lui demander pardon. » Fin de citation. Voilà qui s'appelle évidemment, du mot honni par beaucoup, « repentance ». S'il convient bien ici, c'est qu'il traduit la conscience philosophique, éthique, religieuse qui parle en Simone Weil depuis ce jour où elle a regardé en face la question coloniale. On notera toutefois que la force du langage éthique, de la honte et de la repentance ne s'est pas convertie en une politique anticoloniale radicale. Il est indéniable que sa vision d'un fédéralisme mondial, se substituant en particulier à la relation coloniale, traduit un rejet total, absolu, de la division du monde entre citoyens et sujets, entre l'univers de la civilité et les ténèbres extérieures de la barbarie. Au-delà de cette position de principe éthique, sa position politique demeure cependant proche de l'esprit dans lequel se tiendra la conférence de Brazzaville de 1944, convoqué par le général de Gaulle. Il s'agissait alors, reconnaissant les services rendus par les colonies pendant la guerre, de comprendre, selon les mots du général, je le cite, le général de Gaulle, la nécessité d'établir sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de notre Afrique, du progrès humain de ses habitants et de l'exercice de la souveraineté française. Ça, c'était le ton de la conférence de Brazzaville. Fin de citation. On notera du reste ici qu'à la libération, la loi Lamine Gueye, du nom du juriste et homme politique sénégalais qui se battra à l'Assemblée constituante pour cette loi Lamine Gueye étendra la citoyenneté en Afrique à ceux qui jusque-là étaient des sujets et que la première Assemblée constituante parlera d'un principe fédéraliste correspondant à la recommandation 4 de la conférence de Brazzaville, avant que l'Assemblée suivante ne revienne là-dessus. Il y a ce moment euphorique où on considère que l'avenir du colonialisme est à la constitution d'une fédération, d'une Assemblée fédéraliste, dans l'esprit de ce qu'avait écrit Simone Weil, mais ensuite on balaye ça tout de suite dès que la deuxième Assemblée se met en place. Simone Weil, pour revenir à elle, indiquait être en faveur d'une reconstruction différenciée de l'ordre colonial qui donnerait pleinement sens à cette idée d'une protection par la France des nations placées sous son autorité. Cette idée exige d'abord que les cultures de ces nations fassent l'objet d'un respect qui interdise toute tentative d'éradication de leur mémoire propre, par exemple en enseignant à leurs enfants que nos ancêtres étaient des Gaulois. Phrase intéressante d'ailleurs, je reviens toujours sur cette notion de nos ancêtres les Gaulois. Évidemment, c'est une manière, et c'est ce que dans la citation qu'elle en fait, Simone Veil indique que c'est une manière d'effacer la mémoire des enfants, la mémoire de ces peuples, en substituant en quelque sorte leurs ancêtres. C'est une façon de voir les choses. On peut y voir, et c'est toujours cette ambivalence entre les deux visages que la France présente, celui de la civilité et celui de la barbarie. On peut y voir également l'idée jacobine, mais au bout du compte généreuse, selon laquelle il n'est pas question d'avoir un système différencié d'éducation où, à Paris, on enseignerait aux jeunes Parisiens que leurs ancêtres étaient les Gaulois et en Indochine, on enseignerait aux jeunes annamites que leurs ancêtres étaient autres. L'idée profondément jacobine et qui baigne l'éducation nationale en France, je le sais d'autant plus que je vis dans un pays où l'enseignement est totalement décentralisé, mais l'idée selon laquelle il faut que tous les enfants, de manière indifférenciée et uniforme, aient le même enseignement, qu'à 8 heures du matin, le cours d'histoire partout en France et en Navarre soit nos ancêtres les Gaulois, cela aussi fait qu'en définitive, les Gaulois ne sont les ancêtres de personne, sauf d'Astérix et d'Obélix, et des écoliers. Les Gaulois sont les enfants des écoliers. On fera aussi la différence ici, indiquent les réflexions de Simone Veil, entre les annamites, et c'est là que sa condamnation du colonialisme est à étudier et à examiner de près. Elle fait la différence entre les annamites, qui pour elle ont des cultures et des organisations politiques traditionnelles fortes, à l'opposé, à l'autre extrémité, elle voit l'Afrique noire où la dévastation de siècles d'esclavage avait rendu, écrit-elle, je la cite, la colonisation plus justifiable. Donc l'idée qu'on n'aurait jamais dû coloniser les annamites, mais qu'au fond, en Afrique noire, en Afrique centrale, cela pouvait se justifier. Bernadette Caillé, dans un article intitulé « De Simone Veil à Aimé Césaire, hitlérisme et entreprise coloniale », éclaire la manière dont Simone Veil annonce le Césaire du discours sur le colonialisme, en particulier lorsque ce dernier considère que l'hitlérisme a infligé à des Blancs en Europe ce que le colonialisme s'est cru justifié d'infliger à des populations de couleur ailleurs. On sait que c'est un des thèmes centraux et les plus controversés d'Aimé Césaire et de son discours sur le colonialisme. Quand Aimé Césaire dit, au fond, il n'y a pas de différence entre le colonialisme et le nazisme, on rétorque toujours, mais enfin, le nazisme est une horreur sui generis qui n'a aucun équivalent. Elle dit, Césaire répond, mais la seule raison de considérer que cela n'a aucun équivalent, c'est que ce que le nazisme a infligé, il l'a infligé en Europe à des populations blanches, et ce que le colonialisme a infligé, il l'a infligé hors d'Europe à des populations non blanches, et c'est la seule différence que l'on établit, écrit Aimé Césaire, qui aurait pu citer Simone Veil dans ce cadre. Cet anticolonialisme gradualiste, ainsi qu'on pourrait appeler la position de Simone Veil, l'amène à s'opposer à ce qu'elle considère être un anticolonialisme naïf de l'Amérique. L'Amérique, écrit ainsi Simone Veil, n'ayant pas de colonies, entendons, n'ayant pas la responsabilité de protéger d'autres pays, et, je la cite, appliquant naïvement ses critères démocratiques, considère le système colonial sans sympathie. C'est pourquoi, conclut-elle dans son texte de 1943, intitulé « À propos de la question coloniale dans ses rapports avec le destin du peuple français », s'il est clair que le monde était en train d'échapper au désastre d'une hitlérisation de l'Europe qui se serait achevée en une hitlérisation du globe, il fallait également se préparer, dans un tout autre esprit bien entendu, à faire pièce à une américanisation de l'Europe puis du globe terrestre. C'était donc une analyse que Simone Veil propose en 1943. Là était donc, pour une France qui aurait repensé ou plutôt enfin pensé pour la première fois la colonisation, la construction d'un futur où ce pays jouerait tout le rôle qui lui revient, je cite Simone Weil, d'essayer de commencer de nouveau à penser le destin du monde. Et ceci me mène à ma conclusion rapide, à mon troisième point, sur les leçons de ces réflexions de Simone Weil pour notre monde postcolonial. Je considérerai, ainsi que nous y invite l'intitulé de notre rencontre, deux leçons que j'expose rapidement sous forme de questions, essentiellement, et que je soumets à nos discussions. Il s'agit de voir quels éclairages les réflexions de Simone Weil sur la colonie, depuis la colonie, apportent à deux grandes questions postcoloniales d'aujourd'hui. Premièrement, la question que l'on appelle la querelle de l'histoire, ou plutôt de l'enseignement de l'histoire, et deuxièmement, la question qui lui est liée de la repentance pour le crime du colonialisme. Donc, premièrement, la première question concerne la relation entre récits et mémoires nationaux et le postcolonial. Quelle histoire enseigner ? Ceci revient comme un serpent de mer à chaque rentrée et à chaque réforme par le ministre en charge de la question. Quelle histoire enseigner ? L'urgence est-elle de constituer le récit national de manière à créer et partager une même légende pour tous ? Une France éternellement généreuse, libre, désireuse de paix et exportant aux peuples étrangers qui en ont le vertige l'idée de liberté. Faut-il plutôt essayer de composer les histoires plurielles qui enseignent le décentrement, en particulier l'histoire coloniale qui n'en finit pas de dérouler ses effets aujourd'hui. Je crois qu'à cette question sur laquelle nous revenons assez souvent, semble-t-il, en France, Simone Weil aurait apporté la réponse selon laquelle c'est cette histoire, c'est ce réseau d'histoire, cet enchevêtrement d'histoire au pluriel qu'il faudrait plutôt enseigner. Deuxièmement, pour la deuxième leçon, je reviens à la manière dont Simone Weil exprime avec force, dans la citation que j'en ai faite, honte et repentir. Du violent sentiment qui s'exprime ainsi, elle s'explique dans une lettre à Georges Bernanos, où elle déclare « Les humiliations infligées par mon pays me sont plus douloureuses que celles qu'il peut subir. » En définitive, c'est cela qui explique probablement la violence de la réaction qui a été la sienne lorsqu'elle a parlé de honte de mon pays, etc. Elle supporte beaucoup moins les humiliations que la France fait subir que celles qu'elle pourrait subir. Quelque chose dans sa démarche pourrait, me semble-t-il, dans la démarche de Simone Weil, pourrait, me semble-t-il, utilement éclairer cette querelle de la repentance qui est revenue sur le tapis, par exemple, récemment, lorsque celui qui était seulement alors le candidat Emmanuel Macron a déclaré que le colonialisme est un crime contre l'humain. Il a d'abord déclaré que c'était un crime contre l'humanité, il s'est repris et est passé de ce langage légal, finalement, parce que crime contre l'humanité, c'est une catégorie juridique, je parle sous le contrôle des nombreux éminents juristes qui sont ici, alors que crime contre l'humain, c'était la phrase éthique qu'il avait préférée. Simone Weil, me semble-t-il, ne dit pas autre chose. Et sa démarche montre que la repentance n'est pas d'abord pour elle l'acte politique de s'adresser à l'autre pour lui demander pardon. Au fond, toute la querelle de la repentance est là. Est-ce qu'il s'agit d'aller en Algérie, par exemple, et d'avoir le geste politique de demander pardon aux Algériens ? Le pape peut demander pardon des crimes de l'humain. Mais que signifie qu'un président, qui a d'ailleurs aujourd'hui est si jeune qu'il n'a jamais connu cette époque-là, irait devant un président vieillissant pour demander pardon ? Donc il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas d'une telle démarche politique. Pour elle, pour Simone Weil, cette question est d'abord la simple reconnaissance de ce que j'ai appelé les deux visages, ou la coexistence du récit et du contre-récit, qui interdit par exemple le ridicule de dire que la colonisation n'était pas autre chose que la volonté de partager sa culture. Se repentir est donc, et c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle nous enseigne comme leçon, se repentir, c'est d'abord toujours s'adresser à soi-même. Et c'est ce que, semble-t-il, Simone Weil a compris en nous invitant à penser depuis la colonie. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Souleymane, de ce très bel exposé, alors qu'il y a beaucoup d'échos à la fois dans l'actualité et même dans l'actualité de cette maison, et d'un certain nombre de controverses qu'il y a au sujet de certains des professeurs de cette maison sur la façon d'écrire l'histoire. Donc nous allons prendre, comme ce matin, un petit moment pour une discussion entre nous, en commençant peut-être par les intervenants en colloque et puis ensuite en élargissement au public, que je pourrais commencer par cette comparaison avec le nazisme que Simone Veil fait donc bien avant Aimé Césaire. Et si ma mémoire est bonne, elle met aussi en parallèle le déracinement, ça avec le déracinement, avec le déracinement de la classe ouvrière. Donc, elle fait un parallèle entre le déracinement infligé au peuple colonisé et infligé aux classes populaires, aussi à ces classes paysannes qui ont été évoquées ce matin. Est-ce que ça a un écho pour vous, ces rapprochements, enfin, entre ce qu'on appellerait au fond, l'exploitation sociale, qui est une part importante de son œuvre, et puis toute cette réflexion qu'elle a sur la colonisation.
Oui, parce que finalement, en travaillant en revenant sur les textes que Simone Veil consacre à la colonisation, je me suis rendu compte qu'au fond, bien qu'il ne la cite quasiment jamais, Senghor a dû méditer ce qu'elle a écrit à cette époque-là, et cela se manifeste dans le couple enracinement-ouverture, qui est un des thèmes de prédilection de Senghor. Et je le mets également en relation avec un autre texte que Senghor a beaucoup lu, c'était le texte de Barrès sur les déracinés. L'idée qu'à un moment donné, il y a toute une partie de l'humanité qui est arrachée à ses racines et jetée dans une sorte de nomadisme, dans une absence d'ancrage, pour revenir aux différentes métaphores qui étaient en compétition ce matin, ceux de l'ancrage ou celui des racines. Et donc, je crois que c'est toujours le même phénomène. Cette idée selon laquelle le monde moderne, à la fois le capitalisme, le colonialisme, une machine qui a déraciné, une machine qui coupe l'humain de lui-même, qui coupe l'humain de son travail et qui coupe l'humain des autres humains. Et je crois que c'est cette idée-là qui est derrière la notion de déracinement, l'absence de coïncidence avec soi-même. Et j'y trouve d'autant plus un écho pour répondre à la question que vous posez, que c'est au fond la raison pour laquelle beaucoup de sujets coloniaux, d'intellectuels du monde colonial, à la différence de ce qui sera la démarche du Parti communiste français, par exemple, ou la démarche de mon vieux maître Althusser, considéreront toujours que le vrai Marx n'est pas le Marx du Capital, mais le Marx des manuscrits de 1844. Parce que c'est le Marx chez qui la notion d'aliénation, de coupure avec soi-même, non seulement avec ce qu'on est, mais avec ce que l'on a à être, cette sorte d'évolution naturelle qui doit être la nôtre si nous sommes véritablement dans l'élément vital au sein duquel nous sommes enracinés, même s'il ne faut pas comprendre la racine comme ce qui nous maintient, ce qui nous enferme, etc. Et donc j'ai bien aimé la discussion sur l'encre, ou alors la multiplication des racines. C'est beaucoup plus le rhizome deleuzien que l'enracinement de l'arbre dans un sol avec une racine unique. Mais derrière l'idée de déracinement, il y a cette idée de ne plus coïncider avec soi-même. Je crois que c'est le plus important. Et le fait que l'ouvrier ne coïncide plus avec soi-même parce qu'il est coupé de sa propre personnalité, parce qu'il est coupé des fruits de son travail, travail qu'il n'aperçoit plus que sur le mode de la contrainte, selon la citation qui nous a été également donnée ce matin. Cette idée-là, effectivement, traverse à la fois le monde du travail en métropole et le monde des sujets coloniaux dans le monde colonial.
Vous avez évoqué la figure de Sartre et donc le rôle qu'il a joué après-guerre avec, notamment vis-à-vis des écrivains intellectuels africains. Vous avez écrit un texte magnifique là-dessus, sur ce que vous avez appelé le baiser de la mort de certains. Alors, c'est quelque chose que n'aurait pas fait Veil. Peut-être que ça serait bien de réexpliquer ça, parce oui. qu'il y a, justement, il y a un déplacement entre la façon dont une intellectuelle comme Simone Veil appréhende le phénomène colonial et puis ce qui va être ensuite, disons, du côté d'intellectuels engagés, l'attitude. Et on sent qu'il y a, comme une perte en ligne, ou enfin, il y a un décalage, si vous pouviez nous en parler.
Absolument, et c'est la même, c'est la démarche.
Expliquant, parce que le baiser de la mort, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse votre texte.
Oui, alors, c'est vrai que c'est dans la continuité de ce que dit Simone Veil à propos de la gauche, parce que dans ses textes sur le colonialisme, elle dit également que les Français de gauche, que justement, le lien que vous faisiez entre les travailleurs qui sont normalement tout aussi aliénés que les sujets coloniaux, mais qui ont du mal à comprendre la solidarité naturelle qui devrait les lier, c'est dans le prolongement de cela que Sartre écrit en 1948 la préface que lui demande Présence africaine pour l'anthologie de Senghor. Et cette préface flamboyante où Sartre, il a toujours eu une très belle plume, mais là, il se dépasse, parce que comme s'il écrit une préface pour une anthologie de poésie, il devient lyrique et poétique à un point absolument inégalé dans le reste de son œuvre. Mais ce que dit Sartre, c'est qu'au fond, ces poètes de la négritude portent la poésie la plus révolutionnaire de notre temps, dit-il, parce que leur situation vis-à-vis de la langue française fait qu'ils ont à la fois un pied dans cette langue, qu'ils parlent à la perfection puisque c'est la leur, mais également un pied dehors, puisque cette langue leur est venue de l'extérieur, est venue dans les bagages de la colonisation. Et dit Sartre, au fond, ils ont tiré le meilleur parti de cette situation d'entre-deux en accomplissant ce qui est le geste poétique par excellence, qui est l'autodestruction du langage. Et Sartre dit, ils ont donc créé la poésie révolutionnaire de notre temps par leur exigence, par leur demande de se voir reconnaître contre la négation coloniale. Mais, dit Sartre, et c'est là qu'il tombe, qu'il redevient un marxiste, si vous voulez, qu'il redevient l'auteur de Questions de méthode qui a dit que le marxisme était la philosophie indépassable de notre temps, il dit, pour ce qui est de la transformation effective de la relation coloniale, il faudra attendre l'émancipation que la classe universelle qui est le prolétariat va apporter. En gros, bon, c'est bien, vous avez fait de la très belle poésie, mais quand il s'agira véritablement de transformer le monde selon la 11e thèse de Feuerbach, là, ce sont c'est la classe ouvrière métropolitaine qui, en s'émancipant, va émanciper tout le monde. Et c'est en cela qu'il a donné à la négritude un baiser de la mort. À la fois la reconnaissance par cette préface magnifique qui va transformer une anthologie de poésie en manifeste politique et poétique de la négritude, mais dans les dernières pages, il dit « Vous avez été de grands poètes, maintenant alignez-vous au fond derrière l'armée du Parti communiste et lorsque le prolétariat sera libre, ipso facto, puisque c'est lui la classe universelle, ipso facto, tout le monde sera libre. » C'est ce que j'ai appelé dans mon livre « Le baiser de la mort ». Suivant cela d'ailleurs Fanon. Fanon dit en gros la même chose, que Sartre lui a à la fois rendu une forme de dignité dont il avait été privé, mais qu'il la lui avait ôtée immédiatement avec la conclusion d'Orphée Noir. Non, Simone Veil n'aurait pas écrit ça. Au contraire, elle a toujours tensé la gauche, le Front populaire, en disant « Voilà que vous faites des manifestations antifascistes et vous ne vous rendez pas compte que votre pays est en train d'avoir des menées fascistes avec le genre de massacres qui pouvaient avoir suivi, par exemple, la révolte en Indochine en 1931 ou des massacres qui avaient eu lieu en Tunisie, au Maroc, etc. »
Une dernière question, puis après je vais me montrer un peu plus généreux pour faire circuler la parole. La question que vous avez évoquée de la légende nationale, du récit national, alors il y a plusieurs dimensions du point de vue, je ne suis pas spécialiste de ces questions, je pense qu'il y a une partie du débat qui porte sur la nécessité d'avoir suffisamment de repères chronologiques pour pouvoir savoir de quoi on parle quand on parle d'histoire. Et puis, il y a d'autre part l'idée qu'on forge ainsi un système de référence commune. Cette question ne s'est-elle pas posée aux anciens pays colonisés une fois devenus indépendants ? Et comment a-t-elle été réglée à ce moment-là, lorsqu'on a cessé d'apprendre qu'on était les enfants des Gaulois ? Formule où je rejoins tout à fait votre remarque sur l'ambiguïté, parce que l'envers, ça pourrait dire « vous ne serez jamais les enfants des Gaulois, regardez la couleur de votre peau ». Donc ça serait une lecture raciale. Donc c'est des ancêtres ouverts à tous, en fait. Si vous acceptez la France, tout le monde peut être Astérix et Obélix. Bon. Enfin, je ferme la parenthèse. Est-ce que ce problème, on peut y échapper ? Comme je sais que vous avez joué un rôle important dans la réflexion sur la construction de l'école au Sénégal, est-ce qu'il y a eu un débat comparable après les indépendances sur le récit historique ?
Oui, mais l'histoire, évidemment, est cette discipline qui est éminemment politique. Et c'est au fond sur le terrain de l'histoire que le combat s'est mené. Ce n'est pas un hasard si les premiers grands intellectuels africains qui ont porté ce discours de la réponse à faire à la négation coloniale étaient des historiens. L'idée de la construction de l'histoire de l'Afrique et l'idée qu'il fallait reconstituer cette histoire. Par exemple, la remarque que Simone Veil fait, de manière totalement incidente, évidemment, sans trop y penser, que les Annamites ont une histoire riche, que c'était une civilisation. Elle vivait, elle écrivait comme quelqu'un de son époque qui estimait que l'Afrique, quant à elle, ma foi, ça n'avait pas d'histoire. Selon une formule qui a été malheureusement reprise par quelqu'un que nous connaissons.
Ma question, c'est est-ce qu'au fond, le récit n'a pas été nos ancêtres, les Égyptiens, enfin, si je pense à Cheikh Anta Diop.
Justement, et c'est ça, je voyais d'ailleurs tout à l'heure circuler un texte de Cheikh Anta Diop, Nations nègres et cultures, et la tentation est grande de décalquer le récit national occidental en un récit national du même acabit, finalement, dit afrocentriste. L'idée de reconstituer un récit qui partirait de la Grèce ancienne et où la Grèce ancienne jouerait de l'Égypte, je veux dire, de l'Égypte ancienne, avec cette idée que l'Égypte ancienne jouerait vis-à-vis des cultures africaines le même rôle que l'on a fait jouer à la Grèce vis-à-vis de l'Europe. L'idée, et j'ai vu d'ailleurs Simone Veil reprend dans une citation qui est passée au tableau, cette phrase qui ne veut rien dire, cette expression qui ne veut rien dire du miracle grec. L'Europe s'est constituée, le récit national européen s'est constitué sur cette idée que l'Europe a commencé avec le miracle grec. Le miracle, c'est très pratique parce qu'un miracle n'est précédé par rien. S'il y a un miracle grec, la Grèce ne doit rien à personne, elle est née d'elle-même comme Athéna est née de la tête de Zeus. Et à partir de là, l'Europe devient une espèce de miracle permanent et sa destination est tout naturellement la philosophie dont elle est seule porteuse. Voilà, l'Europe est née philosophe et quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais philosophe. Et en gros, c'est ce que dit Hegel, c'est ce que dit Husserl, c'est ce que dit aujourd'hui, c'est ce que disait encore hier Emmanuel Lévinas. C'est l'idée la mieux installée, cette espèce de téléologie qui ferait l'exception européenne et qui lui donnerait une destination à nul autre pareil et qui en ferait une humanité à part. Alors l'afrocentrisme reproduit ce discours-là. On ne se rend pas compte qu'en définitive, ce décalque est le pire piège qui puisse lui être tendu. On va faire l'équivalent de ce récit national. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur la pluralisation des histoires, la pluralisation des récits, la capacité de décentrement ou de déracinement qui fait qu'on peut toujours se voir du point de vue de l'autre. Et je crois que c'est la leçon principale que j'ai retirée de cette relecture de Simone Veil, que je vous remercie de m'avoir obligé à faire.
C'est moi qui vous remercie de toutes ces remarques. Ça fait penser au regard perçant aussi de Montesquieu qui invite. D'ailleurs, Simone Veil aime bien Montesquieu, elle a raison. Est-ce que... Oui, Annie, j'appuie sur...
Ok. J'ai juste été un petit peu étonnée là, quand vous avez cité un passage de Simone Veil concernant la tolérance américaine, juste pour l'opposer la contre-histoire du peuple français vu de l'autre côté. Est-ce que réellement, nulle part dans son œuvre, il est mentionné que l'Amérique a fait pareil ? Je me demande à quel point c'était possible d'ignorer aussi que les premiers colons américains, des parfaits déracinés, par ailleurs, ont été mieux. Bon, à part que c'est peut-être une colonisation maximalement réussie, parce qu'il n'est pratiquement plus resté d'indigènes, quelle est la différence ? Est-ce qu'elle en parle de ça ?
Alors, je me retourne vers les spécialistes. À ma connaissance, non. Dans ses écrits sur le colonialisme, ce qu'elle retient, c'est l'anticolonialisme de l'Amérique. Et c'est vrai qu'au sortir de la guerre, à ce moment-là, quand on commence à discuter de ce que va être l'après-guerre, les États-Unis défendent à un moment donné le principe selon lequel les anciennes colonies qui ont échappé à la France devraient maintenant venir sous tutelle internationale, l'Indochine, etc. Et donc, il y a une forme d'anticolonialisme américain, si on donne un sens très large à anticolonialisme, contre le système, disons, des colonies européennes. Et c'est contre cela qu'elle parle ici. Mais elle le met entre parenthèses totalement, l'histoire coloniale des...
C'était ça la question. Ah oui, d'accord.
Des Américains arrivés aux États-Unis, ouais. Et puis après avoir appris la culture du maïs et Thanksgiving, se sont chargés d'éliminer évidemment les indigènes. C'était la colonisation la plus radicale qui soit. Au fond, là, il n'est de bonne colonisation réussie que quand les colonisés ne sont plus là.
Je crois me souvenir. Malgré tout, qu'elle a des phrases extrêmement dures sur l'Amérique, sur ce registre. C'était des déracinés, et leur seule passion, c'est de semer le déracinement partout sur la planète. Elle l'écrit. Enfin, je retrouverai la citation d'ici la fin de la discussion, mais c'est un point qu'elle souligne d'une façon, avec son espèce de... Elle y va au couteau, comme d'habitude, sans tellement de nuances. Donc il y a aussi une critique absolument virulente de cet aspect de la culture américaine.